Mesdames, Messieurs, bonjour. Dans le cadre des enseignements de la chaire Savoir contre pauvreté cette année, il m'a semblé intéressant de nous arrêter un instant sur l'aide bilatérale des États de l'OCDE en appui à l'amélioration de la santé des populations du Sud, notamment en Afrique. Vous vous souvenez que notre invité au séminaire la semaine dernière, le sous-secrétaire général des États d'Afrique, des Caraïbes et du Pacifique, Achille Basilekine, nous disait que les financements des gouvernements de ces pays en faveur du secteur demeurent limités. Se situent le plus souvent entre moins de 10 et 20 dollars par habitant et par an. En 2012, seuls 4 pays d'Afrique ont atteint l'objectif des chefs d'État réunis à Abidjan en 2001 de consacrer 15% des dépenses de santé, publiques de santé, des dépenses publiques de l'État pardon, à la santé. Ce sont le Rwanda, le Botswana, la Zambie et le Togo. En l'absence de dispositifs d'assurance maladie et de protection sociale dans ces pays les plus pauvres du monde, ce sont les malades, les familles, les ménages qui contribuent pour la plus grande part aux dépenses de santé. Ainsi, l'aide internationale est-elle très attendue en faveur de ce secteur, souvent perçue par les autorités nationales comme relevant de la charité plutôt que d'un investissement pour le développement économique ? Les chercheurs discutent des effets de cette aide extérieure sur la volonté politique et l'engagement national. Ils ne sont pas tous d'accord entre eux, mais les travaux montrent que l'aide a plutôt tendance à démobiliser les autorités nationales, à l'exception cependant de l'aide budgétaire générale assortie d'incitations à financer les secteurs sociaux, comme celle de la Commission européenne, qui s'est accompagnée finalement au fil du temps d'une augmentation du budget des ministères de la Santé, dans les pays où la santé était un secteur de concentration de l'aide européenne. Pour cette analyse comparative des aides bilatérales, il est intéressant d'observer les cas de la France et du Royaume-Uni, très engagés en direction de ce secteur dès les lendemains de la colonisation, lors de laquelle la médecine tropicale et la lutte contre les grandes endémies constituaient des priorités de l'aide. Par la suite, les évolutions caractérisant l'organisation institutionnelle, les priorités, les mécanismes de financement du secteur de santé privilégiés par ces deux pays européens ont pris des directions différentes dans les années 90. La réforme du dispositif de coopération en France en 98 fait disparaître le ministère de la Coopération, dont les services sont placés sous la tutelle du ministère des Affaires étrangères, puis récemment du ministère délégué en charge du développement. L'Agence française de développement est désignée comme opérateur de cette politique française. Du côté britannique, au contraire, la coopération au développement est rassemblée sous la tutelle d'un seul département du gouvernement dirigé par un ministre au plein pouvoir et de haut rang, Cabinet Minister, animé par la secrétaire d'État pour le développement international, le Department for International Development, que j'appellerai DFID. La durée de ce cours ne nous permet pas de diversifier l'analyse comparative à d'autres États de l'OCDE, tels les États-Unis, abordés lors de ma leçon inaugurale et sur laquelle je reviendrai au cours le 11 avril, ou celle du Japon ou de l'Allemagne, ou des États non membres du cadre du Comité d'aide et au développement de l'OCDE, que je développerai dans le cadre d'un ouvrage en préparation. Aujourd'hui, je vous propose de nous entretenir à ce qui caractérise précisément les aides bilatérales françaises puis britanniques. Puis nous nous intéresserons à la comparaison de leurs engagements et de la qualité de l'aide. Enfin, nous dirons un mot de leur collaboration à l'échelle globale et locale. La France. Prenons la relève des travaux de Henri Journiac et de Bruno Fleury, puis de Joseph Brunet-Jaillet et moi-même dans les années 90. Nous sommes quelques-uns, dont le professeur Hubert Balic, que vous entendrez dans un instant, à avoir souhaité nous souvenir des étapes de 50 années de coopération sanitaire française que nous avons résumées en juin 2011 dans la revue Monde, les cahiers du Quai d'Orsay. Pendant toutes ces années, la France a occupé une place toute particulière en Afrique de l'Ouest et centrale aux côtés des autorités sanitaires, que les fondations privées américaines, comme celle de Bill Gates, nous envient aujourd'hui. En effet, des collaborations s'établissent en ce moment même entre le ministère des Affaires étrangères et cette fondation, intéressée d'agir dans le Sahel. L'impact sanitaire et humanitaire de l'invasion islamiste au nord du Mali il y a un an, puis de la guerre antiterroriste cette année, les déterminants de l'émergence de ce conflit, en même temps que le risque d'extension de ces instabilités politiques à toute la région, invite les Américains, qu'ils soient des institutions publiques ou privées, à mieux la connaître. Trois faits particulièrement marquants se dégagent de l'évolution de l'aide française. Premièrement, la réforme du dispositif de coopération technique à la fin des années 98, lors de laquelle le gouvernement Jospin opère cinq étapes de réforme. Premièrement, la fusion des services de coopération de l'ancien ministère donc de coopération avec ceux du ministère des Affaires étrangères. Deuxièmement, la création d'un poste de ministre délégué à la coopération et la francophonie, devenu aujourd'hui le ministre délégué en charge du développement. Troisièmement, l'évolution de la Caisse française de développement en Agence française de développement, désignée comme l'opérateur pivot de réalisation de la politique de développement. Quatrièmement, l'évolution institutionnelle de l'instance de coordination en un comité interministériel de coopération internationale au développement qui se réunit sous la présidence du Premier ministre, qui réunit un certain nombre de ministères concernés. Et cinquièmement, l'instauration de la zone de solidarité prioritaire de 54 pays puis 55, définie comme celle où, je cite, l'aide publique engagée de manière sélective et concentrée peut produire un effet significatif et contribuer à un développement harmonieux des institutions, de la société civile et de l'économie. La Conférence d'orientation stratégique et de programmation, COSP, instituée en 2004, vise à coordonner l'ensemble des politiques et des institutions et des tutelles. Deuxième élément d'évolution et de la réforme, le retrait de l'assistance technique française de long terme sur le terrain et la diversification des institutions publiques de coopération technique dans la décennie 2000, lors de laquelle plusieurs groupements d'intérêt public, les GIP, sont créés. Le GIP Esther, Ensemble Solidarité Thérapeutique en Réseau, instituant des jumelages nord-sud hospitaliers et associatifs français et européens. Le GIP France Expertise Internationale, dont la mission est de valoriser l'expertise française au niveau mondial. Le GIP Santé Protection Sociale Internationale, travaillant à fournir une expertise dans le domaine de l'assurance maladie et de la protection sociale. De leur côté, le ministère de la Santé, au travers de la délégation aux affaires européennes et internationales, mais aussi les hôpitaux, les entreprises industrielles et commerciales, les collectivités locales, dont la mairie de Paris, les associations et ONG, développent des actions de coopération indépendantes qui relèvent tout autant de la coopération bilatérale. Notons que les ONG reçoivent moins de 1% des financements de l'aide au développement, ce que le président de la République souhaite augmenter selon ses propos lors de la restitution des Assises du développement le 1er mars à Paris. Traditionnellement, les instituts de recherche tels l'IRD, la NRS, comme le réseau des instituts Pasteur, gardent une place remarquée sur le terrain. Cette diversification des acteurs de coopération, pilotée par plusieurs tutelles, le ministère des Affaires étrangères, le ministère de la Santé, le ministère de l'Économie et des Finances, ne passe pas inaperçue de l'évaluation de la coopération au développement sur les 12 dernières années, conduite de manière indépendante par le cabinet Ernst & Young, qui n'hésite pas à parler de pilotage politique incertain. De son côté, la Cour des comptes en France déplore cet éparpillement dans son rapport de juin 2012, tout en saluant la collaboration stratégique de la France avec l'Union européenne et la Banque mondiale. Après avoir rappelé que la France est le quatrième donateur mondial d'aide publique au développement en volume et le deuxième pays du G8 en termes d'efforts d'aide ramenés à sa richesse nationale, la Cour prévient que la France n'est pas en mesure de respecter l'engagement de consacrer 0,7% de son PIB à l'aide au développement d'ici à 2015. C'est l'engagement européen, comme nous l'avons vu la semaine dernière. L'institution de la rue Cambon relève que l'Agence française de développement privilégie l'instrument de financement d'aide bilatérale par l'octroi de prêts, dont l'activité est passée de 10% de l'aide bilatérale française en 2005 à 26% en 2010. Elle met en garde sur le fait, je cite, qu'ils sont inaccessibles aux pays les plus pauvres, tout en affirmant par ailleurs que le secteur de la santé bénéficie seulement de 2,1% de l'aide bilatérale de notre gouvernement. Les prêts constituent 84% de l'activité de l'AFD en 2011, la part de l'Afrique ne représentant plus que 45% de ces prêts. Ce à quoi l'agence répond, que cette région concentre 74% des dons. Or, les priorités géographiques de l'aide française sont présentées dans le document cadre de la politique française de coopération au développement selon trois grands groupes de pays. L'Afrique subsaharienne et le bassin méditerranéen, l'Afrique subsaharienne devant être la cible de 60% de l'aide. Les pays en crise, 10%, les pays émergents, 10%. La France est par ailleurs en tête des pays du G8 pour sa contribution à l'Afrique, mais le rapport One, le rapport de l'organisation One, que vous trouvez donc sur Internet, fait remarquer que la France n'a tenu ses engagements ni sur les montants de son aide au développement, ni envers l'Afrique, mais, je cite, a joué un rôle remarquable dans le financement de la santé. Notons que sous l'effet de la crise financière, les montants de coopération sanitaire française auraient déjà diminué de 13% entre 2010 et 2011, selon le dernier rapport de Institute for Health Metrics and Evaluation, of Health Metrics and Evaluation. La France, qui avait privilégié pendant plus de 40 ans l'instrument bilatéral de financement de sa coopération sanitaire, sous la forme de projets plutôt que d'approches sectorielles ou d'aides budgétaires, à l'instar de ce que font la Commission européenne ou le Royaume-Uni, fait le choix dans les années 2000 de financer en priorité des initiatives mondiales telles que le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme, ou l'Alliance mondiale pour la vaccination et l'immunisation. Donc ça apparaît très clairement sur la diapositive. Vous voyez ici les financements en faveur du Fonds mondial, de United, on va en parler dans un instant, en direction du Fonds européen de développement, l'Union européenne, et une aide bilatérale donc considérablement diminuée par rapport aux 50 premières années de coopération de la France. Par comparaison, vous voyez le Royaume-Uni ici, dont l'aide bilatérale est considérable, l'aide au Fonds mondial nettement inférieure à celle de la France, et puis au Fonds européen, un peu présente aussi. Mais vous voyez très clairement les contrastes entre ces deux coopérations. Depuis le rapport de l'inspecteur général Jean-Pierre Landau sur les nouvelles contributions financières internationales, dont l'étude avait été commanditée par le président Jacques Chirac en 2003, la France affirme son intérêt sur les financements innovants du développement. Elle contribue à la création de la facilité financière de l'achat des médicaments pour le sida, la tuberculose et le paludisme, United, à partir du prélèvement d'une taxe sur l'achat de billets d'avion, envers laquelle elle est le premier donateur. La facilité financière internationale en faveur du programme Gavi, l'Alliance mondiale pour la vaccination et l'immunisation, est financée à travers l'achat d'obligations sur le marché international. Le ministère des Affaires étrangères anime en 2011 une task force internationale santé du groupe pilote sur les financements innovants. La France est visible aussi lors de la création du groupe diplomatie et santé, créé en 2007 avec le Brésil, la Thaïlande, la Norvège, l'Indonésie, le Sénégal et l'Afrique du Sud. Une des priorités du groupe dans le cadre de la réflexion des objectifs pour le monde après 2015 est de promouvoir la couverture sanitaire universelle. En février 2013, le ministère des Affaires étrangères publie encore un document intitulé « Une diplomatie scientifique pour la France ». Ainsi, la France est politiquement présente à l'échelle globale. L'est-elle encore sur le terrain ? Qu'en est-il de son aide bilatérale ? Dans la stratégie de coopération au développement établie sur 10 ans entre 2010 et 2020, la santé est définie comme un bien public mondial. La concentration géographique des interventions en santé se limite, je cite, aux pays pauvres prioritaires d'Afrique francophone, dont vous avez la liste ici sur la partie droite de la diapositive. Une attention particulière est portée aux autres pays francophones qui maintiennent un lien particulier avec la France, notamment l'Asie du Sud-Est et Haïti. Ainsi, envers donc, les pays en sortie de crise comme Afghanistan, Palestine, Haïti et Côte d'Ivoire. Voici la concentration géographique de l'aide française pour la santé. Les priorités de l'aide française s'alignent sur les objectifs du millénaire pour le développement en santé 4, 5 et 6 que nous avons vus au cours 2. Depuis le sommet de Simone Veil en 1994, le sommet de Simone Veil, jusqu'à ce jour, la lutte contre le sida a toujours reçu la plus grande part d'attention politique et des financements de la coopération sanitaire française. La contribution de la France à la santé maternelle et à la santé sexuelle et reproductive est irrégulière. Le rapport du député Pierre Morange faisait remarquer que 9% seulement de l'aide française était allouée à la santé maternelle. Plus récemment, la France s'est engagée à hauteur de 500 millions d'euros sur 5 ans en faveur de la réalisation de la stratégie mondiale pour la santé de la mère et de l'enfant, issue du sommet du G8 à Muskoka, sous l'impulsion du secrétaire général Ban Ki-moon. La coopération française a par ailleurs joué un rôle significatif sur 3 volets des systèmes de santé: le développement des ressources humaines, la couverture du risque maladie, la politique pharmaceutique et l'accès aux médicaments essentiels et génériques. Que disent les évaluations de la coopération sanitaire française ? Tout au long des années 2000, plusieurs institutions et personnalités sont saisies par le gouvernement français pour proposer des recommandations. Tour à tour, le Haut Conseil pour la coopération internationale, le député Pierre Morange, la députée Henriette Martinez, le Conseil économique et social avec professeur Gentileni, le professeur Philippe Kourilski au Collège de France, puis Patrick Mordelet et plus récemment Stéphane Mention au ministère de la Santé, décortiquent la gouvernance, les réalisations et le positionnement international de la coopération sanitaire française. Bien qu'abordée par des personnalités très différentes, les analyses sont communes pendant 10 ans. Premièrement, l'organisation institutionnelle de la coopération est éclatée, multipolaire, nuisant à sa visibilité politique et à son efficience. Deuxièmement, la France oublie ses succès qui ne sont pas assez valorisés ou capitalisés, sur lesquels elle ne communique pas assez, localement ou à l'échelle internationale. En dehors de la recherche, les publications de ses pratiques et de ses savoirs sont rares. Sa contribution fut pourtant significative dans le domaine médical et tropical, mais aussi en appui à l'offre de soins en milieu urbain, au travers d'initiatives originales menées avec la société civile, dont les associations d'usagers sont invitées à gérer des centres de santé communautaires, selon l'initiateur qui n'est autre que Hubert Balic, que vous allez écouter à midi, qui a lancé ces initiatives très novatrices dans les années, début des années 80, fin des années 80, début des années 90 à Bamako, et qui ont été par la suite, avec la coopération française, étendues à toutes les capitales d'Afrique de l'Ouest. Parmi les succès, c'est au sein de la coopération française que les premières collaborations entre les médecins et les personnes vivant avec le sida sont expérimentées à l'unité de soins ambulatoires et de conseils à l'hôpital du jour du CHU de Trècheville à Abidjan. Ces pratiques médico-associatives, par la suite étendues à Boaké, sont à l'origine du concept du programme Esther, qui consiste en une prise en charge globale des patients. Il s'agit d'envisager de manière inédite à l'époque sur le continent la complémentarité de prise en charge médicale entre le médecin et les non-professionnels de santé, c'est-à-dire en donnant aux personnes atteintes par le virus du sida, après les avoir formées, des responsabilités de conseil, de dépistage, voire même de soutien psychosocial et d'accompagnement des personnes dépistées, donc de leurs pairs, voire même de suivi thérapeutique et d'adhérence à des traitements à vie. Ces conseillers et conseillères sont d'autant plus précieux que les rares médecins hospitaliers ne prennent pas toujours le temps nécessaire autour de l'annonce de la séropositivité à un ou une patiente, qui engage aussi tout un travail conjugal et familial dont la qualité va dépendre du temps et de la disponibilité des personnels de santé. Il n'a pas été facile aux professionnels de santé, dont les études peuvent durer 10-12 ans, de reconnaître une légitimité d'acteurs de soins à des personnels formés in situ en quelques jours. Ces interventions figurent parmi les plus belles illustrations de ce que peut signifier une démocratie sanitaire. Dès les débuts du Fonds mondial, la France est souvent seule à plaider pour que le Fonds finance aussi l'achat de médicaments antirétroviraux et pas seulement la prévention. Elle est fidèle à ses engagements à la conférence d'Abidjan en 1997, lors de laquelle les malades africains se demandaient, après la conférence de Vancouver annonçant les succès des essais des médicaments antirétroviraux, s'ils étaient tous unis dans l'espoir, s'ils auraient eux aussi accès à des médicaments très coûteux, comme le faisait croire le slogan de l'ONU-SIDA cette année-là, « Tous unis dans l'espoir ». Lors de la création du Fonds mondial, les représentants français invitaient la communauté internationale, en particulier les États-Unis et la Commission européenne, réticents jusque-là à financer la prise en charge des malades, à financer les médicaments et pas seulement la prévention. Le revers de la médaille de ce plaidoyer en faveur du traitement est pour les représentants des États donateurs au conseil d'administration du Fonds mondial, peut-être de ne pas s'être intéressés suffisamment tôt à la pertinence et à l'efficience des financements octroyés aux activités de prévention et aux déterminants de la propagation de ces trois pandémies dans les pays financés, déterminants qui ne sont pas forcément les mêmes d'un pays à l'autre. Les institutions de l'ONU, OMS, ONU-SIDA et UNICEF témoignent de la même faiblesse dans ce domaine. À l'unanimité, les rapports d'évaluation de la coopération sanitaire française regrettent le retrait de l'assistance technique de long terme sur le terrain, qui fut son avantage comparatif. Cette décision radicale fut prise pour l'essentiel au motif de réduction budgétaire imposée par le ministère des Finances, sans préjuger d'une réflexion plus générale sur la question du renforcement des capacités institutionnelles nationales, publiques ou associatives, à laquelle nous invite à ce moment-là aussi la Cour des comptes européenne dans son rapport que j'ai cité la semaine dernière. Cette décision est apparue d'autant plus regrettable qu'elle était prise au moment où la pénurie des soignants devenait telle que l'OMS évoque une crise mondiale des ressources humaines et choisit d'en faire le thème central de son rapport annuel en 2006. Depuis, la France s'est engagée aux côtés de l'Alliance mondiale pour les personnels de santé lors des conférences en Afrique, donc à Douala en 2006, puis des conférences mondiales à Kampala en 2008 et à Bangkok en 2011. Au-delà de ces efforts, il reste d'actualité que les instances stratégiques de coopération se dotent d'une politique relative à l'expertise dans le champ de la santé, au moins pour trois raisons. La qualité des prestations dans ce secteur va souvent de pair avec la dimension humaine de la coopération. Deuxièmement, la connaissance de longue date du terrain peut nourrir la pertinence des interventions de la Commission européenne lors du suivi et pas seulement de l'instruction des projets du Fonds européen de développement, à propos desquels la Cour européenne des comptes regrette l'absence d'expertise dans les délégations européennes sur le terrain. Troisièmement, ce positionnement d'expertise participe, selon Nicolas Tenzer, je cite son rapport au Premier ministre en 2008, d'un instrument pour une stratégie française de puissance et d'influence. L'expertise de la France est-elle préparée à évoluer, à être novatrice et influente face aux défis du monde de demain? Quelle politique avons-nous à cet égard? Comment contribuons-nous à la formation d'une expertise locale, à la diffusion des bonnes pratiques et des savoirs, à la coopération Sud-Sud? En privilégiant les instruments multilatéraux de financement de l'aide, la France perd sur le terrain ce qui précisément faisait sa singularité. Les affaires de la France-Afrique ont pu instiller une perception péjorative de la coopération par les pouvoirs publics, par les élus et par les citoyens. Ces affaires sont probablement à l'origine de la réforme du dispositif français de coopération à la fin des années 90, conduisant à la disparition du ministère de la coopération. Cette réforme est inachevée. Le portage politique n'est pas clair, les statuts de l'AFD n'ont pas été révisés, l'agence reste une institution bancaire et financière. L'efficacité de l'aide française et son efficience sont difficiles à mesurer. Nous n'avons pas su distinguer ce que de la coopération antérieure pouvait être préservé et valorisé. Les évolutions institutionnelles de l'aide américaine à cet égard sont intéressantes. Dans un premier temps, les États-Unis ont rassemblé sous la tutelle du Département d'État les principales institutions menant des actions internationales. Le gouvernement Obama est maintenant sur le point de créer une unité diplomatique sur la santé mondiale, the Office of the Global Health Diplomacy, au sein du Département d'État, et affirme prendre le leadership. Il le dit, il va prendre le leadership dans le domaine de la santé mondiale à partir de cette réorganisation au sein du gouvernement, au sein de son gouvernement. De son côté, le Royaume-Uni a conduit une réforme de son dispositif de coopération, entamée un peu avant celle de la France. Elle est allée jusqu'au bout. Voyons cela. Le Royaume-Uni. La coopération britannique aujourd'hui retient de l'empire colonial à peu près la même concentration géographique. La plupart des 28 pays prioritaires de l'aide au développement sont anglophones, à l'exception de la République démocratique du Congo, de l'Afghanistan, du Yémen, par exemple. Le document de la stratégie du Royaume-Uni en faveur de la santé mondiale sur la période 2011-2015, intitulé « Health is Global, an Outcomes Framework for Global Health », a la particularité d'être un document du gouvernement dans son ensemble, réunissant les collaborations du Département pour la coopération internationale, DFID, et celle du ministère de la Santé, the Department of Health. Ainsi le justifient les initiateurs. The government believes our international engagement must be focused and strategic. We need to assure the UK's security and prosperity at home and UK citizens' interests overseas. La question de sécurité dans le document britannique fait écho aux préoccupations des politiques américaines, y compris dans le champ de la santé mondiale. Ce souci de sécurité ne semble pas figurer au premier plan des motivations de la stratégie santé de l'aide au développement française. C'est sans doute ce qui distingue le plus clairement les stratégies de la France avec celles du Royaume-Uni et des États-Unis. Notons cependant que lors de la restitution des assises du développement qui s'est tenue en pleine guerre antiterroriste du Mali le 1er mars, le président de la République a présenté la sécurité et la préservation de la paix comme un des trois grands objectifs de la politique du développement française dans les années à venir, avec le développement économique et la préservation de la planète. Il ne s'agit pas de sécurité sanitaire, dimension cruciale de la stratégie nationale de sécurité nationale des États-Unis. Ce n'est pas la première fois qu'en Angleterre, les deux administrations, DFID et Department of Health, travaillent conjointement dans le domaine de la santé mondiale. Une étude avait été commanditée en 2006 par celle-ci et le Premier ministre Tony Blair à Lord Nigel Crisp, l'ancien directeur exécutif du National Health Service, sur quelle pourrait être la contribution et l'expérience de l'expertise britannique à l'amélioration des services de santé dans les pays en développement. C'est un rapport très intéressant que je vous recommande de lire. Je ne vois pas ce qu'on peut dire de plus et de mieux dans le domaine. Lord Crisp prévenait que ces progrès dépendraient de, premièrement, la capacité des pays à trouver des solutions qui seraient soutenues par des partenariats internationaux respectueux, deuxièmement, de la capacité du Royaume-Uni et d'autres pays riches à soutenir la formation initiale et continue des professionnels de santé et leur recrutement par les pays, troisièmement, de la capacité de la recherche et de l'évaluation à saisir ce qui marche et à diffuser les bonnes pratiques. Ce même Lord Crisp est l'auteur d'un rapport récent, en 2012, sur la problématique de la pénurie des personnels de santé et les solutions qui peuvent être envisagées, notamment sur tout ce qui tourne autour de la délégation des tâches médicales ou de santé publique, depuis les médecins vers les infirmiers, infirmières et sages-femmes, ou plus généralement depuis les personnels de santé vers les non-professionnels de santé, que ceux-ci soient des agents de santé communautaire ou des membres d'associations, phénomène qu'ils appellent « task shifting » ou « skill mix » que Lord Crisp encourage à diffuser et pour lesquels il préconise toutes sortes de modalités pratiques dans ce rapport. Les personnels de santé, nous dit-il, doivent être au cœur de ces changements. En Angleterre, les administrations travaillent ensemble en faveur de la santé mondiale et les parlementaires ont instauré des commissions de travail spécifiques sur Global Health, sujet qui semble les passionner davantage que les députés et les sénateurs en France qui n'ont pas d'équivalent à notre connaissance. Les parlementaires britanniques sont-ils plus motivés à y réfléchir? L'administration et les hommes politiques outre-Manche utilisent leurs recommandations et leurs travaux. La dynamique qui s'est instaurée entre les élus et l'État est assez remarquable dans le domaine de l'aide au développement. De notre côté, bien que commandité par les plus hautes instances de notre gouvernement, le Premier ministre dans le cas du travail du député Morange, trois ministres de la Santé, de la Recherche et des Affaires étrangères dans le cas du travail du professeur Philippe Kourilski sur la recherche pour le développement, les recommandations de l'ensemble de ces personnalités et des rapports que je vous ai cités tout à l'heure sur la coopération sanitaire française, pourtant unanime, cohérente, sont restées lettres mortes. Peut-être excusons-nous ainsi un peu facilement les parlementaires français qui pourraient se saisir spontanément de questions relatives à la bonne utilisation des deniers publics, que ce soit dans le champ national de la politique de santé ou à l'extérieur. Plus généralement, je me demande quels ont les effets, quels effets ont les rapports de la Cour des comptes en France, même de la Cour des comptes européenne à Luxembourg, sur les évolutions respectives des politiques françaises et européennes de l'aide au développement, tant leurs recommandations semblent peu suivies. Serions-nous entrés dans cette période où même ces institutions ne font plus autorité ? Qui s'en soucie ? N'assistons-nous pas de fait à une remise en cause de la démocratie, au sens où la conçoit Pierre Rosanvallon, professeur au Collège de France, je le cite. Il s'agit de définir de nouvelles institutions au service de l'intérêt général, de développer des cours constitutionnels, des commissions, des pouvoirs indépendants, nous dit le professeur. Si vous vous intéressez à l'historique de la coopération au développement du Royaume-Uni, inutile de vous disperser, Owen Barder a fait un travail exhaustif pour le Center for Global Development en 2005 et publié un document remarquable récapitulant les grandes étapes de l'histoire et de la réforme du dispositif britannique. Tony Blair est l'artisan de cette réforme qui conduit à la création du DFID. Il déclare en 2011 à la Chambre des communes « It is one of the proudest achievements of the government » that we have not merely introduced the International Development Bill, but have increased aid and development money as a proportion of our income. I believe that our obligations do not stop at these shores. Indeed, it's not merely right, but it is our long-term interest to offer a helping hand out of poverty to the poorest regions of the world. Selon les données de l'OCDE et du site internet Donut Tracker, l'effort consenti par le Royaume-Uni en faveur de la santé des pays pauvres est le plus important des États de l'OCDE rapporté à la richesse nationale. Près d'un quart de l'aide publique au développement du Royaume-Uni est allouée à la santé. La France arrive en deuxième position, mais sa part de l'APD consacrée à la santé reste très inférieure à la moyenne des pays de l'OCDE. La crise financière a déjà entraîné une réduction de l'aide au développement dans la plupart des pays de l'OCDE, à l'exception du Royaume-Uni et de l'Australie. Tony Blair et la secrétaire d'État pour le développement international à l'époque, Claire Short, ont permis, avec les financements de la fondation Bill and Melinda Gates, la création en 2000 de l'Alliance Gavi, pour l'Alliance de la vaccination, donc immunisation, et de son mécanisme de financement innovant, la Facilité financière internationale pour l'immunisation, IFIM, International Financial Facility for Immunization. Le Premier ministre Gordon Brown a lancé en 2007 The International Health Partnership, qui vise à renforcer les systèmes de santé des pays pauvres en privilégiant une approche conjointe d'analyse de situation, de définition stratégique en réponse et de mécanismes de suivi et évaluation de la performance des stratégies nationales au travers d'un partenariat nommé Global Compact. Le Premier ministre David Cameron, très engagé à son tour, disait récemment que Gavi is quite simply a great organization. C'est encore David Cameron qui co-préside le panel de haut niveau sur l'agenda du développement pour l'après-2015. J'ai nommé trois premiers ministres au Royaume-Uni. Avons-nous entendu en France les premiers ministres s'emparer des questions relatives à la coopération sanitaire française ? En France, c'est le président de la République qui s'empare de la thématique de la lutte contre le sida et des maladies transmissibles, vis-à-vis de laquelle un ambassadeur est nommé. Le portage politique de la santé mondiale dans toutes ses dimensions reçoit moins d'attention. La réduction de la pauvreté et la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement sont au cœur des objectifs britanniques, alignés sur la politique de développement de l'Union européenne, élaborée conjointement, nous l'avons vu la semaine dernière, par les 27 États membres de l'Union européenne, à moins que ce ne soient les orientations britanniques qui influent la politique européenne, ce qui est plus probable, de même que ses objectifs spécifiques de se concentrer sur les pays les plus pauvres, les pays en situation de conflit armé et les post-conflits, et États fragiles où la pauvreté prédomine. Sur cette diapositive, vous avez une évolution entre 2005 et 2015 sur 10 ans du nombre de pauvres, vous voyez le volume des sphères, et des pays où se situent les pauvres. Donc vous voyez ici donc, l'Inde, la Chine de manière prédominante. Et en 2015, donc, la pauvreté sera concentrée essentiellement sur l'Afrique et beaucoup moins dans les autres pays. Donc il y a une évolution en nombre, mais il y a une évolution aussi géographique de la pauvreté. Et nous observons que la pauvreté diminue dans le monde, sauf justement dans les États fragiles, qui maintenant constituent la priorité des politiques de développement des États de l'OCDE et de l'Union européenne. Selon les données du comité d'aide au développement de l'OCDE, 67% de l'aide britannique va aux pays pauvres, comparé à 48% de l'aide européenne, à 28% de l'aide française, 76% de l'aide canadienne et 80% de l'aide de la Belgique. L'aide bilatérale anglaise va à 68 pays, 87% de cette aide bénéficie à 20 pays. L'Éthiopie, l'Inde, l'Afghanistan, le Bangladesh, le Nigeria, la Tanzanie, le Kenya en reçoivent la plus grande part en 2011. La Somalie et le Pakistan sont les plus grands récipiendaires de l'aide humanitaire de l'Angleterre. Près de la moitié des financements, 47%, bénéficient à l'Afrique, anglophone surtout, un peu la République démocratique du Congo et le Rwanda, est-il encore francophone, anglophone ? Les engagements du Royaume-Uni en faveur de l'Afrique continuent d'augmenter, comme vous le voyez sur cette diapositive. Contrairement à la France, et plutôt comme la Commission européenne, le DFID privilégie l'aide budgétaire générale et l'approche sectorielle plutôt que le projet pour financer le secteur de la santé. DFID finance aussi la Banque mondiale, les agences des Nations unies, les organisations de la société civile, peu sur la santé, ceci dit, et le Fonds mondial contre le sida. L'implication politique et stratégique du Royaume-Uni dans le domaine de la lutte contre le sida n'a pas l'histoire et l'envergure de celle de la France ou des États-Unis, même s'il est présent. Le Royaume-Uni a manifesté davantage de volonté politique, de constance et d'engagement financier en faveur de la santé des enfants, des adolescentes, des jeunes filles et des femmes, de la santé sexuelle et reproductive et du family planning. En témoigne le sommet de Londres en juillet dernier, l'été dernier, sur ce sujet. Le gouvernement a toujours mis l'accent sur la santé maternelle, tout comme les États-Unis, dont les interventions sur le terrain sont souvent cependant de nature préventive plutôt que curative. Or, la réduction de la mortalité maternelle passe par l'amélioration de la référence obstétricale et chirurgicale, de la communication, il faut pouvoir appeler une ambulance, des transports et des services d'urgence, pour sauver les femmes souffrant des complications de la grossesse et de l'accouchement, dont professeur Hubert Balic va nous parler dans un instant. Les objectifs de DFID concernant la santé des enfants sont formulés ainsi. Renforcer les systèmes de santé nationaux pour que les bébés aient tous les soins nécessaires dans leurs 100 premiers jours de vie. La nutrition est une priorité de l'aide britannique, dont la stratégie repose entièrement sur les recommandations du dossier publié dans The Lancet Series en janvier et février 2008, qui vont être actualisées dans un nouveau dossier sur la nutrition, The Lancet Series, en mai prochain. En conclusion, les clés du succès de la coopération britannique résident dans une organisation institutionnelle rationnelle au sein d'un département ministériel placé auprès d'un ministre de haut rang, d'une volonté politique forte, des engagements financiers incomparables, une expertise reconnue tant à l'échelle mondiale que sur le terrain, un niveau d'engagement important dans le domaine de la recherche, l'expression d'objectifs et d'attendus clairs pour lesquels des instruments de mesure, de suivi et d'évaluation sont disponibles et des commissions indépendantes d'évaluation mises en place, sans oublier de mentionner cette dynamique et expertise parlementaire exceptionnelle, à la fois indépendante et partenaire. Le citoyen et le contribuable anglais sont intéressés et concernés par les politiques, les réalisations et l'efficience de leur administration dans ce domaine. Ces sujets défraient la chronique. En 2012 et 2013, en témoignent de très très nombreux articles où ces sujets sont discutés dans le quotidien The Guardian. Nous intéressons maintenant à l'analyse comparative de la qualité de l'aide bilatérale. De manière générale, c'est le comité d'aide au développement de l'OCDE, regroupant 24 États membres parmi les pays les plus riches, qui établit des analyses comparatives des montants de financement d'aide et de son efficacité. Compte tenu de l'augmentation spectaculaire de l'aide mondiale en faveur de la santé dans les années 2000, surtout en faveur des trois maladies, nous l'avons vu, compte tenu de la multiplicité des acteurs publics et privés, l'OCDE choisit ce secteur comme un sujet d'exploration dans le laboratoire d'analyse de l'efficacité de l'aide. en instituant une task team qui va travailler sur Health at the Tracer Sector. Le rapport de ces travaux est publié en 2012, à la lecture duquel nous mesurons le chemin qui reste à parcourir du côté des bailleurs de fonds pour qu'ils appliquent effectivement les 5 principes de la Déclaration de Paris. Seul celui relatif à la gestion axée sur les résultats fait référence à la mesure de l'efficacité de l'aide en termes de progrès concrets et d'impact sur la réduction de la mortalité maternelle. Excusez-moi, il y a un petit problème technique. Donc, seul le quatrième principe de la Déclaration de Paris sur la gestion axée sur les résultats fait référence à la mesure de l'efficacité de l'aide en termes de progrès et d'impact sur la réduction de la morbidité et de la mortalité. Ce quatrième principe fut le moins appliqué d'après les évaluations. Les autres principes s'intéressent au processus de coordination et d'harmonisation des donateurs entre eux. C'est aussi la limite d'une analyse du Center for Global Development en 2007 qui compare de manière très intéressante la performance à l'échelle des pays du programme PEPFAR, de la Banque mondiale, du Fonds mondial, mais ce sont des études qui s'en tiennent au processus, qui sont importantes dans le cadre de l'efficacité de l'aide, mais qui restent d'une analyse de processus. L'analyse de l'aide multilatérale, désormais privilégiée en faveur de la santé, a fait l'objet d'études du gouvernement britannique en 2011, du gouvernement australien l'année suivante, pendant que l'OCDE, quelques mois après l'Australie, s'interroge sur ce que nous savons de l'aide multilatérale. What do we know about multilateral aid? C'est un rapport récent de l'OCDE. Les turbulences qu'a traversé le Fonds mondial au cours des 3 dernières années ont pour partie motivé ces évaluations de l'aide multilatérale. Il ressort que l'Alliance Gavi est bien classée. La revue britannique de l'aide multilatérale classe mieux le Fonds mondial que la revue australienne. Vous voyez ici Gavi, le Fonds mondial, dans la revue donc, britannique de l'aide multilatérale. Ici, vous avez la revue australienne de l'aide multilatérale, toujours Gavi en très bonne position. Et puis le Fonds mondial ici, nettement moins bien positionné en tant qu'institution. Le gouvernement britannique reste fidèle à ses engagements à l'égard du fonds, moins volumineux cependant que ceux de la France. Le Royaume-Uni octroie sur la période 2004-2011 1 milliard d'euros au Fonds mondial, pendant que la France y consacre 2 milliards d'euros, donc la France qui est le deuxième contributeur au Fonds mondial après les États-Unis. En revanche, l'aide du Royaume-Uni à l'Alliance Gavi est plus élevée, de 364 millions d'euros versus 226 millions d'euros de la France sur la même période. Les deux pays sont représentés et actifs au conseil d'administration. C'est toujours le rapport de l'organisation One, disponible sur Internet, 2012 Data Report, qui donne ces analyses comparatives, donc avec les documents de l'OCDE. Plus récemment, le Center for Global Development, dont je salue ici un éminent senior spécialiste, Midover, que nous avons l'honneur d'avoir en notre présence dans la salle. Je remercie Midover de sa présence, nous sommes vraiment très honorés. Donc, il travaille au Center for Global Development. Donc, ce center a développé 2 outils de mesure comparative de l'aide au développement, sans doute plus, mais dans les médias, je vous parlerai de 2 outils. Le premier s'intéresse au montant des engagements, intitulé 2012 Commitment to Development Index. Il est disponible en ligne et c'est un outil dynamique. Vous pouvez aller rechercher des informations au fur et à mesure, donc en cliquant sur les pays, les informations qui vous intéressent sur les montants d'engagement, leurs évolutions. Le deuxième outil s'intéresse à la qualité de l'aide. C'est l'outil CODA, qu'on appelle CODA, qualité de l'aide. Et il permet de classer les institutions bilatérales et multilatérales selon 4 grands critères. Premièrement, maximiser l'efficience, et vous avez toute une série de petits sous-critères qui permettent d'évaluer l'efficience des institutions. Deuxième grand critère, soutenir les institutions nationales. Troisième grand critère, diminuer la charge de leur travail. Et quatrième critère, préserver la transparence et la diffusion des informations. Donc, je vous invite à lire ce document dont je vous donnerai la référence en ligne. Sur le site internet de la chaire, vous avez chaque semaine donc, les supports du cours et également les références qui l'accompagnent. Se proposant de suivre les engagements d'aide au développement des institutions et des États européens, l'organisation One utilise cette grille du Center for Global Development pour décrire et commenter les aides bilatérales en faveur de l'Afrique. Selon One, les résultats sont insuffisants pour la France sur 3 des 4 critères d'analyse de la qualité de l'aide sur la période 2009-2010. Son score le plus faible se situe dans la catégorie transparence et apprentissage, selon laquelle notre pays est classé 28e sur 31. Notons que la France n'est pas signataire de l'initiative internationale pour la transparence de l'aide, comme le sont le Royaume-Uni, les institutions européennes, les Pays-Bas et l'Allemagne, par exemple. Selon le même rapport, l'aide britannique est classée dans les 10 premières institutions selon les 4 dimensions de l'analyse de la qualité de l'aide. The UK has been a consistent leader in aid effectiveness. It is one of the best performing EU donors assessed in the Quoda Index and ranks in the top 10 of the 31 countries assessed in each of the Quoda dimensions. Les 3/4 de l'aide britannique passent par les systèmes nationaux des pays pour les achats, le management et le financement. Le rapport One souligne les études et les instances indépendantes que le gouvernement britannique met en place pour analyser l'efficacité de l'aide, telles The Independent Commission on Aid Impact, créé récemment. En avril 2010, 7 rapports avaient été publiés par cette commission indépendante, y compris concernant une activité stratégique de l'aide européenne aux pays les plus pauvres, ou des aides de DFID à la Banque mondiale, ou de DFID à certains pays comme l'Afghanistan, le Soudan, le Népal ou le Zimbabwe. Matthew Jeats, de l'organisation Overseas Development Institute à Londres, publie de son côté en juin 2012 une analyse de la qualité de l'aide des institutions et États européens. L'étude est originale en ce qu'elle montre bien que selon les critères retenus et les méthodes, un pays ou une institution peut se retrouver classé différemment. Les données sont difficiles à rassembler, insiste-t-il. There is a general lack of robust evidence. Il recommande de ne pas s'en tenir à l'index composite d'analyse comparative tel que suggéré par Quoda, notamment en raison de liens obscurs que cet index entretient avec l'impact de l'aide, comme nous le commentions plus haut. Il reste aux organisations d'aide, surtout, nous dit-il, d'analyser et faire connaître là où elles contribuent au développement de bonnes pratiques. Lord Crisp nous l'avait déjà recommandé, souvenez-vous. Cet auteur propose par ailleurs que ces analyses sur la qualité de l'aide incorporent les perceptions des acteurs qui reçoivent et administrent ces financements. Alors justement, c'est le travail de Simon Burrell, Overseas Development Institute, toujours, qui s'intéresse à ce que les récipiendaires de ces financements, justement, pensent. Ainsi, les agences des Nations Unies, la Commission européenne, la Banque mondiale et le Fonds mondial sont classées selon des critères qui n'ont que peu à voir, en fait, reconnaît l'auteur, avec les critères d'efficacité d'aide tels que la déclaration de Paris les a formalisés. Les perceptions des récipiendaires sont parfois subjectives, au sens où la facilité de gestion et des procédures, par exemple, ou le temps de mise en œuvre des financements et des réalisations sont autant de facteurs perçus comme des critères d'efficacité d'aide pour les gens qui les mettent en œuvre, ces financements. Le dernier volet de mon intervention s'intéresse à ce qui rapproche ces gouvernements, ce sur quoi ils travaillent ensemble. En dehors des assemblées mondiales annuelles de l'OMS et de ses comités techniques, des réunions de haut niveau sur les objectifs du millénaire pour le développement ou des sommets du G8, les acteurs de l'aide au développement se retrouvent au sein de l'Alliance mondiale pour les personnels de santé, des initiatives mondiales sur les maladies chroniques, des réunions autour du partenariat mondial pour le développement, faisant référence à l'OMD8, vous savez, de développement d'un partenariat mondial pour le développement, où figure la cible d'accès aux médicaments en partenariat avec l'industrie pharmaceutique, c'est un petit peu le 4e OMD santé, et de nombreuses occasions à l'échelle globale. Ils se sont entendus pour élaborer des documents de grande importance sur la santé mondiale, comme la Convention cadre de l'OMS pour la lutte anti-tabac, le Code de pratique mondiale de l'OMS sur le recrutement international des personnels de santé, pour que les pays du Nord cessent de faire de la publicité, d'attirer de manière active les personnels formés au Sud, par exemple, la Déclaration de Paris, le Code de conduite des États membres de l'Union européenne sur la complémentarité et la division du travail entre les États membres en appui à la santé et au développement en général dans les pays du Sud, et les déclarations du sommet de Busan sur l'efficacité de l'aide en décembre 2011. Donc, en conclusion, la France et le Royaume-Uni sont des interlocuteurs clés de la gouvernance mondiale de la santé. Le Royaume-Uni a tenu à maintenir une aide bilatérale significative là où la France l'a quasiment abandonnée, au profit des initiatives mondiales et innovantes. Plus de 50 ans après les indépendances, il est étonnant d'observer que la concentration géographique de l'aide de ces gouvernements s'aligne sur ce que furent en fait les colonies. Les priorités thématiques, sida d'un côté, santé sexuelle et reproductive de l'autre, pourraient faire espérer une complémentarité. Néanmoins, les systèmes de santé dans leur ensemble restent peu financés, notamment les niveaux hospitaliers de référence. Si l'Alliance Gavi semble de façon unanime être un succès, bien que posant quelques questions relatives à la pérennité du financement de la vaccination à l'échelle nationale, les agences de l'ONU, les pays et le Fonds mondial ensemble ont-ils su décliner les stratégies de contrôle sida en interventions efficaces de prévention? Le nombre de nouveaux cas d'infection à VIH continue de dépasser le nombre de patients mis sous traitement. La directrice générale de l'OMS a alerté la communauté internationale il y a quelques jours sur le risque de propagation de la tuberculose résistante. Sida et tuberculose, c'est le drame du XXe siècle qui se prolonge au XXIe siècle, depuis plus de 30 ans maintenant, même si des progrès considérables ont été réalisés dans le domaine de la prise en charge médicale et thérapeutique des patients. Malgré tout, il me semble que les institutions internationales et les gouvernements savent travailler ensemble à l'échelle globale, même si cela prend beaucoup de temps. Ce qu'il reste à faire, c'est de travailler ensemble et avec les autorités locales, à l'échelle locale. Œuvrer de manière synergique afin que toutes ces politiques et ces engagements concrets, perceptibles, que ces engagements pris à l'échelle mondiale aient du sens et se traduisent en changements concrets et perceptibles par les populations sur le terrain et objectivés scientifiquement et sur le plan épidémiologique. Il s'agit pour les donateurs de soutenir conjointement, ainsi que l'avait préconisé Lord Crisp, des réponses locales et la diffusion des savoirs contre la pauvreté pour une meilleure santé. Je vous remercie de votre attention et nous allons écouter dans un instant, après une petite pause, ce professeur Hubert Balik sur la santé maternelle. Je vous remercie. À tout de suite.